La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
La médecine a fait des progrès considérables en quelques dizaines d'années, en symbiose avec la physique, la chimie, la biologie. C'est un vrai basculement depuis que les scientifiques ont compris que le corps humain est en fait de molécules avec lesquelles on peut interagir. On a déjà parlé dans d'autres émissions de la découverte de la structure de l'ADN en 1923 par Watson et Crick, de celle de l'ARN messager en 1961 par Jacob, Wolf et Monod, et de l'utilisation de tout un ensemble de ces molécules à des fins thérapeutiques. Tout est allé très vite. À notre époque, quand vous achetez un médicament, on vous parle tout de suite de molécules. On annonce qu'une nouvelle molécule thérapeutique a été découverte pour guérir telle ou telle maladie. Tout ceci a conduit à une nouvelle discipline appelée médecine moléculaire, qui a permis de très grandes avancées pour traiter les maladies, mais aussi pour les diagnostiquer au départ, ce qui n'est pas du tout évident, en particulier pour les maladies rares. J'ai avec moi aujourd'hui un grand spécialiste toulousain de médecine moléculaire, spécialisé dans l'étude des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et métaboliques, Bertrand Perret. Bonjour Bertrand.
Bonjour Sylvie.
Bertrand Perret est actuellement professeur émérite de biochimie et biologie moléculaire à la faculté de médecine de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Il a été dans le passé directeur adjoint puis directeur du Centre de physiopathologie humaine de Toulouse-Purpan entre 2002 et 2010. Puis, il a été chef de service de biochimie et chef adjoint du pôle de biologie au CHU de Toulouse entre 2011 et 2020. Bertrand, est-ce que tu peux nous dire dans quel domaine cette médecine moléculaire a eu la plus grande importance, une importance primordiale, historiquement ?
Alors, historiquement, la médecine moléculaire s'est développée pour le diagnostic de maladies que l'on qualifie de maladies rares, qui sont souvent des maladies de déterminisme génétique. Ce sont des maladies qui surviennent lorsque un patient va être porteur de deux copies d'un même gène, ces deux copies étant altérées, la copie d'origine paternelle et la copie d'origine maternelle, ce qui explique un petit peu la rareté d'un certain nombre de ces pathologies. Et ce sont des maladies très souvent avec des traductions cliniques assez lourdes qui ont largement bénéficié du diagnostic moléculaire. Je crois que la première fois que ce terme a été utilisé, c'était pour le diagnostic de la drépanocytose en 1949. C'est une anomalie de l'hémoglobine.
Alors si je comprends bien, en fait, il peut y avoir un père qui a un gène défectueux, disons, une mère qui a aussi un gène défectueux, et en fait, il y a un problème chez l'enfant si les deux gènes défectueux se retrouvent ensemble, c'est ça ?
Alors, on est dans le cas finalement assez répandu dans les maladies génétiques, de pathologies qui sont dites récessives, c'est-à-dire qu'elles vont s'exprimer effectivement lorsque le patient est porteur de deux copies du gène qui sont altérées, alors que les parents, s'ils n'en ont qu'une seule copie, eh bien, ne vont pas avoir un phénotype clinique patent, tout simplement parce que le gène qui n'est pas altéré va permettre la synthèse de protéines normales et de compenser donc la fonction du gène qui, lui, est altéré. Par contre, quand les deux copies sont altérées, on voit l'expression de la maladie chez l'enfant. Alors, ça n'est pas toujours le cas. Il y a des pathologies génétiques pour lesquelles, eh bien, on dit qu'on a affaire à un trait dominant, parce que même quand on est porteur d'un seul gène altéré, on va avoir l'expression d'un phénotype clinique.
Alors pratiquement, en fait, comment est-ce qu'on reconnaît, enfin, je ne vois pas exactement comment pratiquement on peut reconnaître une maladie rare et comment on peut la détecter ?
Alors, très souvent, les choses ont été un petit peu dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que tout part du patient, d'un phénotype clinique particulier. Et sur cette présentation clinique, on va se rendre compte qu'il y a par exemple une anomalie biologique. Dans un certain nombre de maladies rares, par exemple, c'est une enzyme qui est déficitaire et qui va provoquer l'accumulation de composés dans plusieurs cellules de l'organisme, par exemple dans le système nerveux. Et une fois qu'on sait qu'on a un déficit sur cette protéine, sur cette enzyme, on va remonter sur le gène et aller chercher par séquençage quelles peuvent être les anomalies, les mutations présentes sur ce gène. Donc il y a toujours cet aller-retour entre le phénotype clinique, la protéine, le gène, et ensuite on fera le chemin inverse lorsque on cherchera à caractériser l'impact de nouvelles mutations.
Et est-ce que ça peut permettre justement de guérir certaines de ces maladies ou d'au moins de les traiter?
Alors il y a deux types finalement de réponses à cela. La première, c'est que lorsque on connaît de façon précise un diagnostic et qu'il est d'origine génétique, lorsque l'on met le doigt sur un déficit particulier, on va pouvoir essayer de contourner ce déficit, d'administrer par exemple une enzyme que l'on qualifie d'enzyme recombinante, c'est-à-dire issue du génie génétique, ou bien d'utiliser des médicaments qui contournent un petit peu l'obstacle et la difficulté. Et il y a de grands espoirs maintenant pour arriver à de la thérapie génique, c'est-à-dire d'être capable, chez des très jeunes enfants, de modifier l'expression d'un gène, tout simplement en administrant au bon endroit eh bien un fragment d'ADN qui va permettre de corriger l'altération moléculaire au niveau génique.
Alors ces histoires de, j'ai envie de dire, manipulation génétique fait très peur aux gens, donc je crois que c'est très important de savoir qu'il y en a à des fins thérapeutiques qui sont très importantes pour sauver des enfants.
Oui, tout à fait. Personnellement, je suis au courant de quelques protocoles qui ont intéressé la communauté française et notamment certains praticiens du CHU de Toulouse. Il faut savoir que ce genre de protocole est évidemment extrêmement encadré, demande une participation très active des patients et des familles et que le cadre légal est extrêmement rigoureux, ce qui est normal. Mais dans certaines pathologies qui sont très lourdes et qui conduisent à des déficits potentiellement très handicapants, effectivement, c'est une source d'espoir que de voir se développer des protocoles de thérapie génique, oui.
Et alors, pour les maladies cardiovasculaires et les questions de cholestérol, moi ça m'intéresse beaucoup, le cholestérol, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Alors tout à fait parce que bon, c'est un de mes domaines de spécialité, mais effectivement on peut dire que on est progressivement passé des maladies rares à l'utilisation de la médecine moléculaire dans le cas des maladies plurifactorielles beaucoup plus communes. Pensons par exemple au diabète qui touche 6% de la population générale en Europe. Pensons aux maladies cardiovasculaires et métaboliques qui sont souvent caractérisées par exemple, le fait qu'on a des dépôts de cholestérol dans les artères qui vont les boucher progressivement et qui peuvent conduire un jour à un infarctus du myocarde, dans d'autres situations, à, par exemple un accident vasculaire cérébral. Là, on a quelque chose de tout à fait intéressant qui a une série de découvertes qui ont donné lieu à un prix Nobel en 1985, donc c'est déjà assez ancien, où deux jeunes médecins ont réalisé un ensemble d'observations en partant par exemple de situations caricaturales, situations caractérisées par une hypercholestérolémie familiale homozygote très sévère.
Excuse-moi, homozygote, tu
Ça
peux
veut
nous...
dire, encore une fois, avec le patient porteur des deux copies du gène qui sont altérées, et ces patients se présentent avec des dépôts lipidiques un tout petit peu partout, alors que ce sont de jeunes enfants, et une prédisposition aux maladies cardiovasculaires qui est extrême, et ces maladies survenant lors de la deuxième décade de leur vie. Et donc, en cherchant bien, ils se sont aperçus que chez ces patients, il semblait bien qu'il y ait un récepteur qui prend en charge le cholestérol, qui chez ces patients était déficitaire. Alors, ils ont ensuite un tout petit peu généralisé leurs observations à l'exploration d'autres patients qui souffraient d'hypercholestérolémie familiale mais hétérozygote, c'est-à-dire qu'ils avaient une hypercholestérolémie moins franche, avec simplement un des deux gènes d'origine parentale qui était altéré, et ils ont à nouveau exploré un tout petit peu la fonctionnalité de ce récepteur. Et puis ils ont généralisé leurs observations à des tas de hypercholestérolémies beaucoup plus communes, pour lesquelles le déterminisme génétique n'est pas du tout évident. C'est plutôt des conditions, on va dire, de problèmes de régulation, d'interaction avec l'environnement qui sont impliquées. Et ils ont comme ça abouti à une série d'observations qui ont permis d'expliquer à quoi sert ce récepteur? quels sont les phénomènes de régulation qu'il met en jeu dans les cellules, quels sont les mécanismes qui régulent l'expression de ce récepteur. Et ils sont arrivés finalement à découvrir, en collaborant avec des collègues qui s'intéressaient aux levures et aux champignons, une nouvelle classe de médicaments qui cible très précisément ce récepteur et qui permet évidemment d'être très efficace dans la réduction du cholestérol. C'est la classe que l'on appelle aujourd'hui les statines. Voilà donc un impact majeur, on va dire, par rapport à une population qui est extrêmement importante.
J'ai l'impression que l'impact, en fait, c'est justement ça, de cibler, non? De cibler précisément d'où vient la maladie. C'est ça qui aide à traiter la maladie.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai, évidemment, de beaucoup de maladies, connaître bien le déficit moléculaire, c'est permettre de définir le plus intelligemment possible, en tout cas avec le plus de connaissances, la cible thérapeutique et les moyens d'agir dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, un champ d'investigation, enfin, et d'application, concerne le cancer ou les cancers. Parce que, et je crois qu'à Toulouse, on est très bien placé d'ailleurs avec tout ce qui se passe autour de l'Oncopole sur le site de Langlade, qui est un centre d'excellence. Mais très clairement, lorsque l'on présente une tumeur, ça peut tout à fait arriver dans de multiples conditions, on caractérise évidemment l'organe qui est atteint et le grade de la tumeur. Eh bien aujourd'hui, on va plus loin, et très souvent, à partir des biopsies, on va chercher les empreintes génomiques, c'est-à-dire que on sait qu'à l'origine de bien des processus cancéreux, on a des anomalies de gènes qui vont se mettre à coder pour des protéines qui interviennent dans la régulation du cycle cellulaire, dans la prolifération des cellules, et ces altérations géniques vont faire que ces cellules vont se mettre à proliférer de façon anarchique. Eh bien, lorsque l'on connaît à peu près les gènes qui sont impliqués, si l'on peut détecter des mutations, eh bien, on sera en mesure de préciser tout à fait le diagnostic de ce cancer. Ensuite, il faut savoir qu'un certain nombre de cancers résultent aussi de remaniements géniques, c'est-à-dire que certains gènes se recombinent entre eux et vont permettre l'expression d'une protéine anormale qui, là aussi, va faire proliférer les cellules. Et donc, lorsqu'on a ce genre d'empreinte génique dans une tumeur, là aussi, c'est un peu bingo, on a un élément diagnostique supplémentaire. Mais non seulement diagnostique, ça veut dire que on va en quelque sorte définir les traitements les plus adaptés pour contrecarrer l'action de cette protéine ou de son activité. Et donc ça, c'est tout à fait important parce que en ce qui concerne les cancers, on va de plus en plus comme ça vers une approche personnalisée et ciblée en fonction de ce que l'analyse moléculaire nous a appris.
Eh bien, tout cela est très porteur d'espoir. Merci, Bertrand, pour cet éclairage sur un sujet qui nous intéresse beaucoup, puisqu'il s'agit de notre santé. Je crois que tu as encore beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet de la médecine moléculaire, en particulier l'apport de l'informatique pour la compréhension de toutes ces maladies et pour leur traitement. Nous allons donc en reparler la semaine prochaine, si tu veux bien. Au revoir, Bertrand. À très bientôt.